va parler de tout ça, mais on va parler de l'économie. Sébastien McMahon, économiste stratège à IA Gros Financier. Ça va, Sébastien?
Ça va très bien, vous autres?
Oui, ça
très
va bien. Quand on va à New York, ouais. Hein, les financiers, ils demandent des comptes, là. Mm-hmm. C'est parce que tu ne veux pas être décoté une autre fois. Il faut ouais. que tu donnes quand même les vrais chiffres. C'est important là, d'avoir les... Ces gens-là veulent des... Tu sais, ils prêtent de l'argent. Ouais. Ils émettent des notes de crédit. Ouais. C'est important d'avoir accès aux bons chiffres, hein, ouais, au bon ouais, moment.
Ouais. Mais tu sais, la comptabilité nationale au Canada et au Québec est très bonne aussi. Là, ces gens-là, tu sais, dans les médias, c'est une chose, mais je vous garantis que quand on approche des investisseurs et qu'on arrive avec les chiffres, c'est des vrais chiffres.
Tu veux des bonnes... Oui, c'est ça. Là, exact. Ouais. Bon, t'es sorti récemment pour dire sur bon les baisses de taxes puis des bonbons préélectoraux, je sais pas trop là, comment on va les qualifier, mm-hmm. mais ce que vous dites, puis ce qui vous inquiète, vous autres, les économistes, c'est que là, il y a des déficits lourds qui s'en viennent, il mm-hmm. y a des milliards à trouver d'ici 2030 pour ouais. atteindre l'équilibre budgétaire. Comment on va faire? Comment on va atterrir? Là?
Ben, tu sais, c'est le manque de cohérence qu'il faut soulever comme économiste. C'est notre responsabilité à nous.
Ouais.
Le dernier budget du Québec, on avait... On peut dire qu'on s'est donné le plan d'avoir un plan, okay? Dans le sens que d'ici 2029-2030, il faut identifier 2 milliards de dollars, ça c'est 2 000 millions de dollars par année d'économies récurrentes pour venir ramener le budget à l'équilibre.
À zéro.
Pour, après ça, pour éviter des futures décotes. On n'est pas à risque de se faire décoter demain matin. C'est pas ça le message. C'est que les agences, eux autres, ils regardent pas nécessairement le chiffre de la dette aujourd'hui. Ils regardent la trajectoire. Est-ce que les choses s'améliorent puis est-ce que c'est sous contrôle? Donc, okay. si on dit que... On sait qu'il faut couper 2 milliards d'ici 4 ans, mais qu'on est encore en train de mettre des mesures récurrentes par-dessus. Ça manque de cohérence, donc c'est ça notre travail à nous.
C'est ce que vous avez levé ouais. comme drapeau, là.
Ouais, exactement.
Il y a Desjardins, Jimmy Jean, ouais. toi, tu l'as fait. Il y a ouais. d'autres économistes qui ont dit, là, vous êtes durs à suivre, ouais, les politiciens.
Exactement.
Là. Et là, on s'en va en campagne électorale aussi. Ouais. On n'est pas encore là.
On n'est pas là encore.
Imagines-tu l'orgie qui s'en vient aussi?
Oui, oui, oui. Puis dans le dernier budget, il y avait identifié 250 millions d'espace fiscal pour ces mesures-là. Puis là, on a dépassé. Puis qu'est-ce qui était surprenant un petit peu, c'est que l'argument était que ben on a des revenus qui sont plus élevés, donc on peut se le permettre.
Ouais.
Quand on regarde depuis le début de l'année au Canada, Statistique Canada nous dit qu'on a perdu 112 000 emplois au pays depuis le début de l'année. Puis de ces 112 000-là, c'est 91 000 de perdus au Québec. Donc, c'est surprenant de voir le gouvernement dire les revenus sont plus forts qu'attendus.
Ouais.
Il faut se fier à la parole. Donc, encore une fois, juste soulever là, les possibles enjeux de cohérence.
Où on s'en va, l'économie canadienne? Parce que là, on est frappé de plein fouet avec l'accord de libre-échange. On ne sait pas. L'incertitude, c'est pire que tout, là, on
ouais.
le voit.
Bien, l'incertitude pèse lourd dans ouais. le moment. Ouais, quand on regarde les entreprises, la confiance des entreprises est encore affectée. Ça veut dire que les entreprises qui n'ont pas confiance, ça investit moins, ça embauche moins, puis ça crée moins de productivité. Donc, c'est un peu ça le contexte.
Et là, on le voit là, carrément, ouais. les chiffres de chômage. Dernier mois, on a perdu 43 000 emplois au Québec.
Oui, oui. Ouais. Puis, les perspectives sont... Il y a lieu d'être optimiste.
Ouais.
Le plan, tu sais, là, je suis un économiste, puis Mark Carney, c'est un économiste, puis c'est un fichu bon économiste. Là, maintenant, il est premier ministre, il va falloir qu'il apprenne à faire de la politique. Ça on va le juger sur ses résultats là-dessus. Mais son plan économique est très bon de vouloir utiliser le potentiel énergétique de l'économie canadienne.
Ça, on l'avait-tu échappé dans les dernières années de s'éloigner un peu du pétrole? Parce que...
Finalement, je pense que si on pouvait retourner en arrière, oui, on aurait investi plus là-dedans. Avant de redistribuer de la richesse, il faut créer de la richesse.
Mais
ça, c'est un principe
de base.
Puis là, de vouloir exploiter mieux le pétrole, de pouvoir... on avait besoin de créer des terminaux d'exportation de gaz naturel puis de pétrole dans l'Ouest canadien parce que sinon, le pétrole, il est coincé chez nous. Puis les Américains, bon, ben c'est un marché naturel parce que c'est l'axe nord-sud.
Ouais.
On leur vendait pas cher parce que le pétrole était captif ici. Maintenant, de pouvoir le vendre aussi en Asie, ça fait un compétiteur, puis on peut vendre le pétrole plus cher. Alors, ce genre de mesures-là, c'est important, mais c'est beaucoup au niveau de la politique provinciale. Tout ça. Les provinces ont le droit de regard, savoir qu'est-ce qui passe chez eux.
Ouais.
Donc, M. Carney, son grand défi, ça va être de travailler main dans la main avec les provinces. Ça va mieux, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Ouais, l'Alberta aussi qui semble démontrer un petit peu de... Comment d'impatience?
Ben, d'impatience. J'étais en Alberta récemment. J'ai passé quelques semaines là-bas. Puis c'est difficile d'être contre l'argument de ces gens-là qui disent « On n'a pas de problème à vous envoyer de l'argent pour la péréquation, mais en contrepartie, pouvez-vous acheter notre pétrole? » Parce que dans l'Est canadien, on achète du pétrole qu'on importe d'ailleurs, d'Afrique entre autres. On réimporte du gaz naturel de l'Est des États-Unis qui coûte plus cher puis qui est plus polluant que celui qu'on produit dans l'Ouest, juste par principe qu'on ne veut pas que le pipeline passe dans notre cour arrière.
Ouais.
Donc, il y a ça que c'est, la Constitution canadienne est faite comme ça. Les provinces ont ces pouvoirs d'influence-là. C'est comme ça, mais le grand défi de M. Carney, c'est un, c'est d'attirer assez d'investissements chez nous, parce que 1 000 milliards, là, 1 trillion en 5 ans.
C'est ça son objectif. Là, hein?
C'est le tiers du PIB canadien d'une année. Ce n'est pas juste les Canadiens qui vont investir ça, ça prend des investisseurs étrangers. Il est à New York cette semaine, aujourd'hui, pour pouvoir aller chercher de l'argent là. Aller chercher de l'argent à l'étranger, c'est important, mais faire en sorte que les provinces, on rame toutes dans le même sens, c'est ça l'enjeu.
Ou que le Canada peut être attirant pour des investisseurs, le Québec inclus, là, ouais. Quoi, les mines, les métaux, les ressources naturelles. On est un pays de ressources naturelles.
Ben, ce que le monde a besoin, le Canada l'a, c'est certain. Si vous avez déjà traversé le Canada en auto, là, on a du bois, on a du pétrole, du gaz, on a des métaux, on a de l'agriculture, on a de l'hydroélectricité, on a tout ce qu'il faut. Donc, un bon exemple, c'est Shell. Récemment, Shell, la compagnie internationale, est venue acheter pour 22 milliards chez nous une compagnie qui s'appelle ARC Resources. Puis, c'est des synergies parce que Shell est l'actionnaire principal des nouveaux terminaux LNG Canada qui sont en Colombie-Britannique. Puis, ils sont allés acheter un des grands producteurs canadiens de gaz naturel.
Ça fait du sens.
Fait que, on voit que les entreprises internationales disent, OK, si les choses se placent, il y a des opportunités intéressantes. Donc, l'argent va venir. Mais il va falloir qu'on rame tout dans le même sens.
Et Carney a fait le tour de la planète. Là, hein? Lui, son World Tour, l'a fait. Il est allé aux Émirats Arabes Unis, il est allé en Angleterre. Les Allemands, là, qui viennent de prendre une entente aussi pour acheter du gaz naturel au Canada.
Oui.
Donc lui, son but, c'est de créer une espèce de buzz pour venir investir chez nous.
Oui, puis de diversifier les relations commerciales. Parce qu'on est parti qu'on avait environ 75% de nos exportations qui allaient aux États-Unis. Puis c'est normal, c'est notre voisin d'à côté, c'est l'axe nord-sud. Ça ne changera pas la géographie. Là, on a du progrès, on exporte plus dans le reste du monde, mais le ratio est passé de 75%. 15-25, environ 70-30. Avant que ce soit 50-50, il va falloir qu'il se passe beaucoup de bonnes choses.
Ouais, là, on a des ententes. J'ai regardé hier le Mexique, ils ont commencé à négocier, nous autres. Mm-hmm. On est dans bonne voie pour négocier avec les Américains. Trump avait fait ça en 2017. Ouais. Il avait négocié d'abord avec le Mexique et ensuite le Canada.
Ben, il divise. Il y a des enjeux qui sont différents.
C'est ça qu'on va voir.
Puis tu sais, en début d'année, nous, on était convaincus que la CEUM se ferait déchirer. On dit c'est trop le style de Trump. Maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'il risque de le garder en place. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump, il veut gouverner par décret. Puis pour gouverner par décret, ça veut dire qu'il ne veut pas s'associer au Congrès. Il veut pouvoir tout faire tout seul. Puis s'il voulait déchirer la CEUM ou le modifier de façon importante... Ouais. Faudrait qu'il passe par le Congrès, puis ça ne l'intéresse pas. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il négocie avec les États-Unis, avec le Mexique, puis avec le Canada, puis il peut mettre des lettres d'intention à gauche et à droite, comme des amendements. Il peut se permettre de faire ça, mais la date du 1er juillet qui s'en vient, il faut oublier ça. Il n'y aura pas de deal d'ici le 1er juillet. Là. Puis s'il n'y a pas de deal, ce que ça veut dire, c'est que la CEUM tient, mais à chaque année, on repasse dans ce cirque-là que l'on négocie.
OK, fait que là, si au 1er juillet, il n'y a pas d'entente avec les Américains, on reporte d'un an.
C'est à chaque année. Ça déclenche maintenant qu'il y a des révisions annuelles. OK. De l'entente. Fait qu'à chaque année, on rouvre et on dit qu'est-ce qu'on va changer.
Fait qu'il peut dire ce qu'il veut, lui. Il va arriver au midterm puis il va falloir qu'il vende son projet aussi.
Oui. Puis là, il va se retrouver avec une inflation qui est plus forte dans le moment, une économie, les inégalités aux États-Unis, c'est toujours en hausse. Donc, sa base, c'est plus difficile. Donc, il va avoir un moment assez difficile cet automne. Mais M. Trump aime gouverner par décret, gouverner dans son coin. Fait que même s'il se retrouve tout seul puis est entouré de démocrates, probablement que son style changera pas.
S'il est isolé, mettons, il parle, parce que là, il y a la trifecta. Il y a la présidentielle, il y a la Chambre des représentants, mm-hmm. puis le Sénat. S'il parle le Sénat, la Chambre des représentants, au niveau de ses pouvoirs, lui, présidentiel, et, mettons, l'accord de libre-échange, c'est quoi? Y a-tu quelque chose?
Probablement qu'on va dans des cycles d'impeachment qui vont commencer comme
on va voir ça aussi.
Ils vont essayer d'y compliquer la vie. Mais dans le moment, il utilise ses pouvoirs présidentiels pour imposer des tarifs comme il veut. Il ne passe pas nécessairement par le Congrès. Donc, probablement qu'on va avoir le même style qu'on a là. La question, ça va être est-ce que les démocrates vont finalement se lever puis faire leur travail d'opposition s'ils ont plus de pouvoir, ça va être ça la question, mais je ne m'attendrai pas à des grands changements de la part de M. Trump.
Voilà. Au niveau économique, Québec, Canada, monde, la prochaine année, est-ce qu'on... Parce que là, on a vu l'économie ralentir. L'économie canadienne, quand même, est résiliente. Moi,
C'est le mot pour l'économie mondiale. L'économie mondiale est résiliente dans le moment. Puis c'est technique un peu, mais tu sais, les banques centrales comme la Banque du Canada puis la Réserve fédérale aux États-Unis, quand ils baissent leur taux d'intérêt ou ils montent, on dit toujours que les effets, il y a un délai. Ça va prendre un certain
12-18 mois.
Ouais. Puis là, il y a tellement eu de coupures synchronisées des taux d'intérêt dans les dernières années que ça nous donne un vent d'eau qui est très fort. Les chiffres économiques de l'économie mondiale sont bons, sont résilients, sont forts. Le choc pétrolier, il ralentit même pas rien dans le moment dans les chiffres internationaux. Ça pousse l'inflation, mais ça ralentit pas. C'est très bon. Canada, on est frappé par l'incertitude. Donc, on a une croissance qui est plus faible. L'économie américaine carbure encore très bien. Le déficit
2% à peu près?
Oui, puis le gouvernement qui fait un déficit, ça fait surchauffer cette économie-là. C'est éventuellement, là, on commence à voir les banques centrales commencer à hausser. Il y a eu des hausses en Australie, la Banque centrale européenne, cet été, les hausses s'en viennent. 2027, il devrait commencer à avoir un vent de côté, puis après ça, un vent de face qui va s'installer. Donc là, si les gens regardent les nouvelles puis disent « je comprends pas pourquoi que les marchés vont si bien, si les nouvelles, ça a l'air de ça », parce que le bruit, faut l'éviter. C'est le signal, le vent d'eau, puis le vent d'eau dans le moment, il est encore bon.
Les profits sont très bons là, à Wall Street sur Q1.
Ils sont
là,
très bons, puis les attentes de croissance des profits sont encore plus fortes. Au Canada, les attentes, c'est 30 % de croissance des profits dans les 12 prochains mois. C'est énorme.
30 %? 30 %.
C'est énorme. Quand on inclut les grandes, petites et moyennes capitalisations, tout le monde ensemble, il y a des bonnes raisons d'être optimiste envers les actions. Donc, il se passe des bonnes choses, mais éventuellement, 2027, ce qui nous sert là pourrait commencer à devenir un vent de face éventuellement.
OK. Donc, tu dis peut-être la Fed pourrait peut-être monter...
Commencer à monter.
Un quart de cadran, un quart de taux. Monsieur Warsh, là, qui vient d'arriver, lui, il a beau... Puis Trump a quand même, la semaine dernière, il a dit « vous allez être indépendant ». Il a dit « écoutez-moi pas ». Bon, ça, il fallait qu'il le dise.
Ouais.
Mais lui, son idée, c'est de baisser les taux. Il n'est pas tout seul, hein, il ne pourra pas agir tout seul.
Il n'a jamais dit... Il a laissé présager qu'il trouvait que la politique monétaire était trop serrée.
Ouais.
Puis c'est sûr qu'on n'est pas dupe. Il faut penser que probablement qu'il a vendu cette salade-là à Donald Trump pour avoir la nomination. Mais quand même, il dit des bonnes choses. Puis il faut penser qu'au Canada, le gouverneur de la Banque du Canada a un peu plus de pouvoir qu'à la Fed. La Fed, aux États-Unis, le pouvoir est très décentralisé.
Il y a des gouverneurs, il y a toutes sortes de monde autour.
Il y a un vote sur 12, puis ils sont 19 autour de la table. Il y a un job de faire le consensus. Fait qu'il ne peut pas arriver et dire « OK, les gars, je change la politique monétaire ». C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et Powell est resté aussi. Hein?
Powell est resté pour pouvoir se protéger aussi pour d'éventuelles attaques.
Il y a une immunité, hein? C'est ça.
Oui, il y a une immunité. Puis aussi, si tu veux militer pour défendre les dépendances de la Réserve fédérale, ben, tu es beaucoup plus puissant de l'interne que de l'externe. Donc, c'était brillant de sa part de rester.
Et au Canada, est-ce qu'on s'attend à une hausse de taux? Toi, qu'est-ce que tu vois? Parce que quand même, l'économie canadienne, là, on est de front. L'inflation vient jouer là-dedans. Ouais. On pourrait-tu monter les taux ou on va attendre?
Faut dire que la Banque du Canada a très bien fait son travail. Elle nous a amené dans le bas de la fourchette.
À 2,25, là?
À 2,25. En bas de ça, elle stimulerait l'économie, mais là, elle est encore relativement neutre. Donc, elle a de l'option, si jamais ça va mal, elle peut commencer
elle
à baisser.
Elle a de la marge, ouais.
Puis si jamais les attentes inflationnistes, les gens commencent à perdre confiance, ils peuvent monter sans vraiment mettre les freins sur l'économie. Dans le moment, c'est comme s'ils n'ont pas le pied ni sur le frein ni sur l'accélérateur. Puis s'ils montent encore un petit peu les taux, ça ne changera pas grand-chose. Donc, ils vont pouvoir bien jouer leur travail. Okay. On ne pense pas qu'ils vont monter cette année, mais les chances ne sont pas zéro.
OK. Donc, on est dans des scénarios... Mais il faut voir aussi avec les Américains comment ça va se gérer tout ça, s'auto-gérer. Ouais. Fait que c'est positif.
C'est positif pour le moment. Puis, il faut toujours exclure le bruit. Il ne faut pas trop mettre de poids sur ce que Donald Trump dit.
Si tu as à renouveler une hypothèque, ça, tu te la fais poser souvent, là, dans le contexte actuel, 2 ans, 3 ans, 5 ans, taux variable, taux fixe?
Bien, les taux variables sont encore attrayants dans le moment parce que ça serait surprenant que la Banque du Canada se mette à hausser de façon massive le taux directeur. Donc, c'est toujours mieux de signer sur 5 ans parce qu'on a des primes qui sont plus faibles sur 2 ans, si les taux sont tendance à être plus élevés. Mais c'est beaucoup, c'est très personnel. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ce risque-là?
Ta femme aussi, souvent, tu es tout seul, tu es correct, mais quand tu as ton épouse qui dit qu'il dort pas parce que les taux montent, on achète la paix.
Puis tu sais, ce qu'on dit, c'est que pour chaque tranche de 100 000 $ d'hypothèque que vous avez, chaque mouvement de 25 points de base, là, chaque hausse ou baisse, va vous coûter 15 $ d'intérêt par mois. Donc, si vous êtes capable de faire le calcul, vous avez une hypothèque de 500 000 puis vous dites si ça monte de 1 % bon, ben, est-ce que je suis capable de vivre avec ça? La vraie réponse est...
Elle est là. Ça joue là.
Ouais.
Sébastien McMahon, toujours intéressant. T'avais-tu...
Non, je voulais te donner le temps, c'est tout.
OK. Merci beaucoup, Sébastien McMahon.
Un plaisir.
IA Gros Financier, vous êtes à côté ici.
Oui.
C'est Industrielle Alliance.
Oui.
Ça va bien, l'Industrielle Alliance.
Oui, il se passe des bonnes choses.
Les actions montent, là.
Oui, il se passe des bonnes choses. On a une bonne expansion et tout. Oui, on est bien content de la position dans laquelle on est.
Et le dividende est très bon, en passant. Merci beaucoup.
Un plaisir.
Après la pause, François Charon débarque dans le show.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.